aujourd'hui la masterclass de Pierre Lemaître avec Emmanuel Laurentin.
Pierre Lemaître, vous le savez, le système français aime les diplômes et ce qu'on appelle l'élitisme républicain, un élitisme qui oublie souvent ceux qui passent par les marges ou qui doivent emprunter les chemins de traverse plutôt que les voies royales, justement, de la sélection. C'est pourtant votre cas, ces chemins de traverse. Vous êtes issu d'une famille modeste, fascinée par le savoir, dites-vous. Vous quittez l'école en seconde. Vous tentez ensuite votre chance dans différents métiers, dans le théâtre, avant d'abandonner par peur de l'échec. Et vous retrouvez votre envie d'écrire, dites-vous également, à 50 ans, avant de connaître le succès à plus de 60 ans, après que votre manuscrit a été refusé par Gallimard, qui, c'est ce que vous pensez en tous les cas, n'était pas une maison pour vous. Vous nous expliquerez peut-être ce qu'est une maison pour vous, justement. Ce succès, c'est le Goncourt que vous avez obtenu avec Au revoir là-haut, porté depuis au cinéma par Albert Dupontel, alors que depuis plusieurs années, vous écriviez des thrillers, à moins que ce ne soit des polars, des romans noirs ou des romans policiers. Vous nous expliquerez peut-être la différence qu'il y a entre tous ces genres, pour vous, qui sont des genres à succès, puisqu'avant de connaître le succès avec Au revoir là-haut, vous avez connu beaucoup de succès à partir de ces romans noirs, policiers, thrillers ou romans noirs. Voilà bien un itinéraire assez singulier, le vôtre, une vie qui peut-être, mais peut-être seulement, a à voir avec une œuvre, la vôtre, que nous allons nous attacher à comprendre, Pierre Lemaître. Alors, peut-être une première question. Vous avez beaucoup lu dans votre jeunesse, c'est ce que vous nous dites, est-ce que vous dites dans beaucoup d'interviews, en particulier beaucoup lu de livres de poche que collectionnaient vos parents. Vous les avez tous lus par ordre chronologique de parution, entre le numéro 1 et le numéro 400. Et vous êtes mis à écrire à partir de quand ?
Le premier souvenir que j'ai d'avoir commencé un texte, je vais être au CM2, avec mon copain Pelletier. On avait tous les deux très envie d'être écrivain. On devait avoir, 11 ans, 12 ans. Mm-hmm. Et donc, on a pris un cahier de brouillon et je me rappelle très bien de la scène. On prend un cahier de brouillon, c'est très beau cahier de brouillon sur lequel on écrivait, qui était un peu poreux, comme ça, j'aimais beaucoup. Et donc, la grande question qu'on se posait, c'était, est-ce qu'on fait un roman avec que de l'action ou est-ce qu'il y a aussi des descriptions? C'était la grande question qu'on se posait. Voilà.
Balzac ou un thriller américain?
Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, le texte n'est pas resté, par bonheur, donc je ne suis pas compromis par cette expérience. Mais en tout cas, ça veut dire que le désir de raconter des histoires et d'écrire, il y avait le plaisir vraiment scriptural, quoi. Vraiment le geste d'écrire était quelque chose qui me plaisait beaucoup.
Alors ça, c'était le premier texte, pourrait-on dire, mais il y a sûrement un moment où il y a un premier texte que on fait sans le copain Pelletier.
Ouais.
Et qu'on commence à
Pelletier m'a beaucoup manqué, bien
voilà,
sûr.
J'imagine. Et qu'on commence à imaginer peut-être. Ouais. Envoyer à quelqu'un ou sans l'envoyer, en tout cas, imaginer qu'il puisse être lu par d'autres que par votre entourage tout proche.
Oui, alors il y a eu deux livres, je dirais globalement, hein, à la trentaine et un à la quarantaine, hein, globalement pour faire court, de romans que par bonheur. Alors j'en ai conservé un des deux. Le deuxième était un roman policier. Le premier était un roman, oui, c'était La montagne magique vue par Pierre Lemaître. Vous voyez, franchement, ça valait pas tripette. Mais enfin, ce qui veut dire que j'avais déjà des ambitions démesurées. Vous voyez. Et en tout cas, ce texte-là traduisait une incertitude sur le genre dans lequel j'avais envie de m'inscrire. Je savais pas bien ce que je voulais faire. Et c'était, à mon avis, l'intérêt du texte était dans l'hésitation de ce que je devais faire. Le second était un roman policier que j'ai conservé. Je le publierai sans doute jamais, hein. C'est pas un très bon roman, mais c'est pour dire que ma carrière a connu une envie comme ça qui s'est manifestée à peu près toutes les décennies.
Alors
30, 40, 50.
Voilà, alors ouais. D'autres écrivent de la poésie, certains et de vos proches d'ailleurs, de vos amis écrivent du théâtre.
Oui, tout à fait.
Pourquoi avoir choisi le roman?
Je crois que c'était plus facile. Oui, c'était plus facile. J'étais pas très sûr d'être un bon dialoguiste. Le théâtre me faisait un petit peu peur parce que j'ai l'impression, si vous voulez, que le théâtre, ça n'est pas un texte direct, c'est un texte indirect. Il n'a de véritable intérêt que s'il est mis en scène, monté et dit par des comédiens. Donc en fait, vous faites une sorte de travail intermédiaire, un peu comme pour le scénario de cinéma. C'est pas un produit fini, pour faire court. Et puis je pensais que c'était plus facile. J'ai commencé par les romans policiers, justement, en me disant j'en ai lu tellement, je devrais bien y arriver. Alors, j'ai eu une chance, c'est que j'ai enseigné la littérature à des bibliothécaires pendant une vingtaine d'années. J'animais des stages de formation continue à des bibliothécaires. Et sans m'en rendre compte, à force de discuter, de faire des cours sur le texte littéraire, on avait même un séminaire d'une semaine sur le démontage du texte littéraire. Donc on allait mettre les mains dans le cambouis de savoir comment fonctionnait un texte, les personnages, les chapitres, le découpage. Vous voyez, enfin, on mettait vraiment les mains dans le cambouis. Et sans m'en rendre compte, j'ai mis dans ma boîte à outils un certain nombre de choses. Et quand je me suis attelé au travail à la cinquantaine pour mon troisième essai, ça devait être le dernier, hein, j'ai dit trois essais, après basta. Le troisième essai, en fait, j'ai ouvert ma boîte à outils et dedans, il y avait beaucoup de choses. Et en fait, peut-être que le premier roman que j'ai écrit était finalement un roman, je trouvais, qui manquait pas de maturité, trop, parce que je pense que j'avais bénéficié de ce que j'avais enseigné. Je m'étais pas rendu compte que ma boîte à outils comprenait quand même beaucoup de choses.
Pourquoi avoir choisi ce genre, alors policier, roman noir, thriller, enfin, comment vous le qualifiez d'ailleurs, cette première partie d'écriture publiée de Pierre Lemaitre à partir de la cinquantaine, qui sont cinq ou six romans qui sont des romans policiers?
Alors, ce sont des romans policiers, je sais pas très bien, parce qu'il y a cinq ou six romans, j'ai l'impression qu'ils ne relèvent pas tous de la même catégorie, de la même rubrique. Certains sont plutôt des thrillers, d'autres sont plutôt des romans policiers. Bon, il y a une première distinction technique, si vous voulez, c'est que le roman policier est tributaire de l'enquête. Tous les deux, roman noir, roman policier, tous les trois avec le thriller, démarrent avec une affaire criminelle, et c'est dans le traitement de l'affaire criminelle qu'on va pouvoir distinguer ce qui va relever de l'un ou l'autre genre, pour faire court, hein. Et le roman policier, moi, m'a intéressé, mais assez vite, je m'en suis détaché parce que la mécanique narrative à laquelle vous êtes astreint est très lourde. C'est une mécanique extrêmement exigeante. Vous avez des indices, vous devez avoir une mécanique narrative extrêmement bien montée, c'est très épuisant. Et du coup, vous prêtez beaucoup d'attention à la mécanique narrative et relativement peu aux personnages. C'est un peu le défaut d'Agatha Christie, si vous voulez. Hein, si quelqu'un a déjà pleuré avec Miss Marple ou Hercule Poirot, faut consulter. Vous voyez, parce que non, mais elle a beaucoup.
C'est trop froid.
Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, les personnages l'intéressent pas beaucoup. Ce qui va l'intéresser, et nous, c'est ce qui nous intéresse, c'est son histoire, c'est la mécanique narrative. Et alors, qu'est-ce qui est requis quand on lit Agatha Christie? C'est la curiosité, c'est l'astuce. Il y a un défi à notre intelligence. Voilà. Mais c'est pas l'émotion. Or moi, je suis un écrivain de l'émotionnel. Et donc, du coup, j'ai relativement peu de romans policiers au sens strict du terme, mais plutôt des thrillers où là, on va jouer davantage sur l'identification du lecteur au personnage, ou au roman noir où l'affaire criminelle est le prétexte de savoir avant tout ce qui va se passer ou dans le monde psychologique ou dans le monde social.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce genre policier en général, très largement, est un genre qui comporte à la fois Edgar Poe au tout début, Émile Gaborio, mais aussi James Hadley Chase, mais aussi Dashiell Hammett et tout un tas de hard-boilers américains, par exemple. Et vous allez puiser chez chacun d'entre eux, d'une certaine façon. Parce que quand vous faites travail soigné, vous rendez un hommage, ce que vous ferez très régulièrement dans la plupart de vos romans, à certains de ces auteurs. Et ces auteurs, ils peuvent être Bret Easton Ellis ou Émile Gaborio. Ils ne sont pas ni du même pays, ni de la même période. Et pourtant, ils vous servent de modèle. Ils vous servent à quoi, ces auteurs? Et ces lectures vous servent à quoi, Pierre Lemaitre?
Écoutez, c'est paradoxal, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas l'écrivain de ces lectures, on n'est pas le lecteur de ces romans. En fait, les romans que j'aime le plus en tant que lecteur sont des romans qui sont relativement loin de ceux que je produis. Alors bon, de temps en temps, pour des raisons évidentes, j'aime Proust, je suis pas Proust, mais c'est pas, y a pas photo. Bon, donc là, je peux pas, c'est assez facile à démontrer. Mais en fait, les romans que j'aime le plus en tant que lecteur, à l'exception peut-être de Dumas ou des choses comme ça, ce sont souvent des romans qui sont assez loin de moi. Par exemple, je suis un grand admirateur, par exemple, de Echenoz, par exemple, ou j'aime Tanguy Viel, j'aime des gens comme ça. C'est pas du tout ce que je sais faire. Je ne saurais pas faire des choses comme ça, mais ce sont les auteurs d'aujourd'hui que j'admire. Il y en a d'autres, hein, Rollin et bien d'autres. Et donc, je suis un petit peu embêté pour répondre à votre question, parce que je ne suis pas capable de distinguer dans mes lectures ce qui a été des influences. Comment dire? Je pense pas tellement en termes d'influence. je ne crois pas trop aux influences. Vous avez
mais
dit
aux
dans,
réminiscences.
Dans... Oui, aux réminiscences. Vous avez dit dans votre ouverture, vous avez souligné le fait que j'étais autodidacte. Alors, j'ai après fait des études de psychologie, mais vraiment sur le tas. Vous avez raison de dire que je suis autodidacte. C'est peut-être le gros avantage des autodidactes. C'est qu'au fond, j'ai été pêché à peu près n'importe où et j'étais contraint de faire la synthèse parce que personne ne m'a appris à la faire.
Et vous avez une sorte de grand magasin des accessoires dans lequel vous avez puisé comme un accessoiriste de cinéma.
Oui, tout à fait.
Des plumes d'un tel, la casaque d'un autre, le fouet d'un tel pour pouvoir justement faire vos romans.
Oui, oui. Alors, comment vous dire c'est très compliqué de savoir comment on fabrique un roman. Vous savez, ça me fait penser à ces psychologues cogniticiens qui voulaient essayer de comprendre comment on pouvait jouer aux échecs, faire jouer aux échecs un ordinateur, et qui avaient interrogé des champions d'échecs pour leur demander comment ils s'y prenaient. Les types étaient incapables. Alors, ils disaient 2-3 trucs, et puis très vite, ils disaient, j'ai l'impression que c'est comme ça. J'avais le trac là de venir à cette masterclass ici. Je me disais, mais s'ils me demandent comment est-ce que je fais mes romans, qu'est-ce que je peux répondre? Et la seule chose que je peux vous dire, c'est j'en sais rien. Alors, je vais essayer quand même de dire 2-3 trucs sur les personnages, sur l'intrigue, mais fondamentalement, comment ça se mène? Il y a une part d'intuition, il y a une part de savoir, il y a une part de technique, il y a un petit peu de tout ça. Vous savez pas très bien comment les idées arrivent. Puis au bout d'un moment, la mayonnaise a pris, ça commence à se faire, et vous êtes parti sur un roman. Après, vous irez au bout, vous irez pas au bout. Mais c'est un peu compliqué de mettre ça en coupe réglée pour essayer d'expliquer.
Alors, beaucoup d'écrivains sont déjà passés avant vous, Pierre Lemaître, et d'autres passeront après vous dans ces masterclass qui sont donc coproduites par la BNF et soutenues par le Centre National du Livre. Une des questions qu'on peut se poser, c'est la place, par exemple, de l'émotion. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez? Parce que c'est, en tant que lecteur, ce que l'on ressent. Une émotion qui peut être violente, parfois, dans certains des thrillers. Quand on lit Alex, par exemple, on est brinque-ballé d'émotion en émotion, mais des émotions qui sont très dures, qui nous touchent profondément parce qu'elles nous mettent en difficulté. Et quand on est en train de vous lire dans Au revoir là-haut ou Couleur de l'incendie, ce sont des émotions qui sont jubilatoires parfois. Et on dit, tiens, Pierre Lemaître, il est capable à la fois de nous faire peur et de nous faire plaisir. Il y a aussi une grande part de plaisir de ce que vous écrivez.
Selon moi, la littérature ne fait pas appel à l'intelligence.
Ah oui, carrément.
Mais oui, elle fait pas appel à l'intelligence. Elle fait appel à l'intelligence par l'intermédiaire de l'émotion. C'est ça. L'intelligence de la littérature s'appelle l'émotion, selon moi. C'est-à-dire,
vous êtes 19e siècle, quand même.
Mais je suis le dernier écrivain du 19e, hein, comme mon âge n'a pas manqué de l'indiquer. Je vais vous lire quelque chose qui est écrit par Stevenson et que j'ai apporté là. Toute lecture digne de ce nom se doit d'être absorbante et voluptueuse. Nous devons dévorer le livre que nous faisons, être captivés par lui, arrachés à nous-mêmes, et puis sortir de là l'esprit en feu, incapable de dormir ou de rassembler ses idées, emportés dans un tourbillon d'images comme brassés dans un kaléidoscope. Moi, j'aime beaucoup cette définition que donne Stevenson dans son essai. Il faut absolument lire les essais de Stevenson. C'est publié chez Payot. C'est absolument épatant. J'ai appris beaucoup de choses avec Stevenson. Moi, je viens de cette littérature et c'est la littérature que je fais. J'écris des romans d'aventure. Il faut qu'il se passe quelque chose dans le ventre du lecteur ou de la lectrice, alors que ce soit des émotions positives ou négatives, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et mon boulot, c'est de faire en sorte qu'il se passe quelque chose dans le ventre du lecteur.
Alors, une des questions qu'on pose dans ces masterclass littéraires, c'est de se demander comment on crée ces personnages. Ça part de quoi? Ça part d'une silhouette? Ça part d'un nom? Certains ou certaines de ceux qui vous ont précédé imaginent d'abord le nom. Alors vous, vos noms, ce sont des noms qu'on connaît maintenant, Albert Maillard, Édouard Péricourt, Henri d'Aulnay-Pradel. Est-ce que ces noms vous sont utiles? Est-ce que c'est une silhouette qui vous apparaît d'abord? Comment travaillez-vous vos personnages?
Honnêtement, mon onomastique n'est pas très compliqué, je regarde dans le bottin. Oui. Alors évidemment, de temps en temps, c'est un peu plus sophistiqué. Par exemple, dans « Trois jours et une vie », j'ai un docteur Dieu la foi. Bon, il vient de Proust, alors c'est un petit clin d'œil comme ça. Mais sinon, d'une manière générale, je ne suis pas, je suis pas très...
Très attaché.
Non. Par contre, alors, j'ai besoin de les voir. Par contre, ça, j'ai besoin de les voir. Et donc, au début, quand je cherche mes personnages, je vais sur Internet et je regarde des têtes de gens, des physiques de gens. Alors ça va de des acteurs, des actrices, à des sportifs, à des hommes politiques. Enfin, vous voyez, c'est peu importe, c'est parce que c'est pas ça qui va importer, c'est quelle physique il a. Et donc j'épingle comme ça des gens au-dessus de mon bureau, et puis voilà, au bout d'un moment je les oublie, quoi, vous voyez, je les défais parce que ça y est, le personnage commençait à agir, mais j'ai besoin de les voir.
Quelles sont les règles que vous vous donnez pour écrire, Pierre Lemaître ? Est-ce qu'il y a des règles qui sont les mêmes pour chacun de vos romans, ou est-ce que vous en changez en fonction du type de roman ? Parce qu'on peut dire effectivement que quand on vous lit dans Alex, on n'a pas la même écriture que dans Couleur de l'incendie ou Au revoir là-haut.
Ouais. Alors j'ai deux ou trois règles, celle d'économie narrative, c'est-à-dire de rester au cœur de l'intrigue, d'éviter tout ce qui va être connexe à l'intrigue. Donc j'enlève des choses que j'ai écrites et je me dis c'est pas dans le droit fil de l'histoire, ce qui n'est pas dans le droit fil de l'histoire.
Et ça c'est facile à faire de l'enlever.
Non, c'est un deuil terrible.
Et vous essayez de les recaser, certains des paragraphes?
Ah, bah oui, ça, je peux pas. Alors, même aux chausse-pieds, etc. Mais en même temps, je suis assez rigoureux. Bah oui, parce que je veux pas renoncer. Mais alors, non, j'en fais une nouvelle, j'en fais autre chose. Mais puis, souvent, le plus souvent, c'est je les laisse, ils font partie de rebuts d'atelier. Et donc, ils servent plus à rien. Il y a une deuxième règle qui est de se méfier de l'écriture.
C'est-à-dire,
il faut faire un plan. Moi, je fais un plan. Mais il faut pas confier à l'écriture le soin de faire votre boulot à votre place. On a un peu tendance de temps en temps, quand on fait un plan, à se dire bon, ça je verrai plus tard, ça va arriver dans l'écriture. Alors ça, moi je trouve que c'est un truc extrêmement dangereux, parce que vous avez un risque sur deux que ça n'arrive pas, et dans ce cas-là, votre texte va tomber en plan. Donc je pense qu'il faut se méfier. L'écriture ne va pas faire naître des choses, elle va pas faire le boulot à votre place. Si vous n'avez pas fait un plan, si vous n'avez pas une histoire, une intrigue qui est déjà un peu construite, c'est pas l'histoire qui va vous le fabriquer. Et l'adage inverse, c'est de la même façon qu'il faut se méfier de l'écriture, il faut faire confiance à l'écriture. C'est-à-dire ne pas avoir un plan trop complet, trop fini. Il faut laisser la chance à ce que dans l'écriture naisse quelque chose que vous n'avez pas prévu et qui va être super.
C'est avec j'ai mailles lâches. Les mailles sont lâches, c'est ça?
Oui, oui. Alors j'ai un exemple. Vous voyez, dans le dernier livre, j'ai dans mon plan le fait que à un moment le personnage va avoir besoin d'une nurse. Donc j'ai marqué dans mon plan, bah voilà, on embauche une nurse. Mais je me pose pas la question de savoir.
Elle est anglaise.
Voilà. Si elle est anglaise, comment elle va être. Et au moment de faire venir ma nurse, je fais un casting.
Un casting de nurse.
Oui, un casting de nurse.
Vous les mettez devant vous?
Oui, c'est ça, je les fais rentrer. Mais d'ailleurs, si vous lisez le texte, vous verrez, Madeleine, elle est là, et elle voit arriver, elle dit, oh non, celle-ci est trop cela, trop. C'est exactement moi qui parle, je dis, oh non, celle-ci n'est pas bien. Et puis, à ce coup, je vois arriver une Polonaise.
Vladi.
Et je me dis, ah, c'est vrai, elle est vraiment pas mal. Puis, comme elle parle que polonais, je me dis, c'est bien, personne n'y comprend rien. Et d'un seul coup, ça m'a plu. Cette Polonaise, elle est pleine de santé, elle est nymphomane, mais elle est très tonique. Et puis, elle parle pas un mot de français, jamais.
Elle n'en parlera pas
jamais.
Un mot de français jusqu'à la fin du roman.
Jusqu'à la fin. Ouais. Et ça m'a amusé. Je me suis dit, au fond, comme elle parle pas un mot de français, hormis mes lecteurs qui parlent aussi le polonais, qui doivent pas être si nombreux que ça, la plupart du temps, on va se trouver dans la même situation que le personnage de ne pas comprendre ce que dit la pauvre Vladi. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était amusant. Et de fait, ça, si je l'avais préparé, je ne pense pas que j'aurais trouvé un personnage aussi amusant, aussi riche, amusant, qui m'aurait amusé. Tout le monde n'est pas obligé d'être amusé par Vladi.
Vous connaissez la fin de vos romans dès le début ?
Impératif. Impératif. Je ne démarre pas si je ne connais pas la fin. Je ne sais pas comment elle va être. Par exemple, dans Au revoir là-haut, je sais que ça va se finir par la mort du fils. Hein. J'avais fait un Oedipe à l'envers avec la mort du fils à la place de la mort du père. Bon, ça, je savais que ça serait la mort du fils. Mais je ne savais pas comment. Ça vient de Chandler. Chandler, c'était au moment où je crois c'était Howard Hawks qui avait adapté, voilà. Et puis, la légende raconte qu'en plein milieu du tournage, Howard Hawks appelle Chandler pour lui dire, Raymond, dites-moi, le jardinier qu'on a trouvé noyé dans la voiture, qu'est-ce qui l'a tué? Et Chandler a répondu, aucune idée. Il s'en foutait complètement.
Je n'en sais rien.
Il s'en foutait complètement. Il peut se permettre, Chandler, de ne pas avoir de fin parce que c'est un écrivain génial. Mais Pierre Lemaître, il a intérêt à avoir une bonne fin.
Oui, alors, vous partez sur, vous l'avez dit, sur une image, parfois, pour vos personnages, sur un projet, une volonté de démontrer quelque chose, une idée. Qu'est-ce qui vous fait?
Alors, il y a deux ingrédients. D'abord, il me faut une bonne situation de départ qui soit prometteuse. Je fais très attention à ne pas confondre une intrigue et une situation. Souvent, on a une bonne situation et on pense qu'elle va être suffisante pour faire un roman. Et en fait, on se rend compte que la situation, vous ne faites que l'étirer, mais ça n'est pas une intrigue avec des événements, des rebondissements et quelque chose qui est un continuum. C'est simplement une situation que vous avez étirée. Hein. Et donc ça, il faut s'en méfier parce que je trouve, moi, que ça ne fait pas des très bons romans. En tout cas, moi, c'est pas des romans qui me donnent envie d'écrire. J'en étais où, là?
Oui, alors, non, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une volonté de démontrer quelque chose?
Ça dépend. Par exemple, Alex, c'est une structure complètement abstraite. Ouais. Mais tu dis, ça serait vraiment bien de jouer sur l'identification du lecteur, d'avoir un personnage qui est un thriller. Donc, le lecteur s'identifierait positivement à un personnage. Et puis, on retournerait le personnage et le lecteur sentirait, comprendrait qu'il a mal placé sa confiance parce que le personnage est négatif. Et on twisterait une seconde fois pour renvoyer tout le monde dos à dos. Donc la structure était complètement abstraite et j'ai, à partir de cette structure, fabriqué le personnage et l'intrigue. D'autres fois, ça part d'une situation. Par exemple, pour Robe de mariée, ça part du titre d'un essai de Harold Searles, le psychiatre américain, qui avait écrit un livre, c'était publié chez Gallimard, qui s'appelle « L'effort pour rendre l'autre fou ». Mais t'as dit, c'est un bon titre de roman policier, ouais. Ça. C'était un essai clinique de psychiatrie, mais c'était prometteur. Donc, j'étais parti du titre. Donc, je peux partir de... C'est pour ça que c'est difficile d'en rendre compte, c'est que la recette n'est jamais vraiment la même.
Alors, si on ne sait pas comment vous démarrez, est-ce qu'on sait où vous démarrez? Vous êtes où quand vous écrivez? Est-ce qu'il vous faut une discipline d'écriture ou est-ce qu'au contraire, vous écrivez dans les aéroports, dans les trains, dans les voitures, à l'arrière de la voiture pendant que quelqu'un conduit? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit une sorte d'hygiène de l'écriture ou hygiène de l'écrivain?
Écoutez, je ne fais pas beaucoup rêver quand je parle de mon travail. Franchement, c'est un peu contre-productif hein, parce qu'on a besoin que les écrivains, ils nous... Enfin, un écrivain, c'est quand même quelqu'un, quoi. Ouais. Voilà. On a besoin quand même qu'il nous fasse rêver sur, Chateaubriand, tout ça. Alors, le maître, il se met au boulot le matin, hein. Il s'arrête à midi pour manger. Ouais. Il reprend à 2 heures et puis il s'arrête au moment d'aller chercher sa fille à l'école. Vous voyez ouais. Donc, je ne fais pas rêver avec ça. Vous voyez,
c'est sûr.
Parce que c'est la vie d'un horloger. Mais ouais. En fait, je suis un artisan.
Ouais.
Je suis un artisan. Je travaille tout le temps, je travaille même la nuit. Alors c'est marrant parce que vraiment l'inconscient d'écrivain, c'est marrant. Hein. Le matin, je me lève et il y a des phrases entièrement écrites. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais noter tout de suite les phrases qui sortent de... Parce que je travaille la nuit en rêvant et il y a des phrases entières et des situations. Donc la première chose que je fais, je vais noter, c'est pas mes rêves, hein, je note pas mes rêves, mais j'ai rêvé de mon livre et je vais tout de suite le noter. Et je travaille partout, le train, le métro, moi... Tout me va. La seule, j'ai une très bonne capacité de concentration. C'est ma chance. La seule chose dont j'ai besoin, c'est qu'il n'y ait pas de musique. Voilà. Parce que ça me distrait. Ça empêche ma concentration. Mais j'écris n'importe où.
Est-ce qu'on a plusieurs projets à la fois, Pierre Lemaître?
Moi, je suis pas assez schizophrène pour faire ça. On peut avoir plusieurs projets tant qu'ils en sont à l'état d'ébauche, de recherche. Vous avez 2 ou 3 histoires, vous savez pas laquelle. Mais une fois que la mayonnaise a pris sur un livre et que vous êtes lancé dedans, moi je vis avec mon histoire, je vis avec mes personnages, j'arrête de lire. Voyez, je ne lis que des choses qui vont servir mon histoire, alimenter, mais je ne suis pas un bon lecteur quand j'écris parce que je ne suis pas un lecteur authentique, je joue pas le jeu, quoi. Voyez, j'ai pas la sincérité que doit avoir un lecteur qui est de dire je vais jouer le jeu.
Vous allez chercher de la doc quand vous lisez à ce moment-là.
Hein, ouais, c'est ça. En fait, je lis un roman et puis je me dis, moi je ferais pas comme ça. Puis tiens, c'est marrant ce qu'il fait, tiens, je pourrais utiliser pour. C'est-à-dire, on pique des trucs partout, quoi. Voyez. Donc, en fait, je ne lis pas quand j'écris, enfin quand je suis vraiment en face de...
Alors, une des choses qui est caractéristique chez vous, Pierre Lemaître, c'est que vous insistez sur la documentation qui vous a servi
ouais.
à travailler, surtout pour des romans comme Au revoir là-haut ou comme Couleur de l'incendie. C'est-à-dire, vous dites, voilà, j'ai lu cela, vous rendez hommage. Ça vous est venu comment, cette idée de ne pas laisser cela à l'ombre,
bah, écoutez,
en dehors de la lecture de vos lecteurs.
Écoutez, Emmanuel, c'est très bête, mais on m'a appris à dire merci. C'est une question d'éducation. Je viens d'un milieu dans lequel on dit merci. Et quand vous avez lu un bouquin, un livre d'histoire, qu'un historien, pendant 300-400 pages, vous a éclairé sur votre sujet, que vous lui devez d'avoir compris quelque chose qui va servir à votre roman, moi, ça m'a semblé assez naturel de dire bah, « j'ai lu ça et c'était drôlement bien, et merci ». Voilà, c'est très bête, hein. c'est la pure politesse.
Oui, et pour les romanciers que vous citez, c'est autre chose, parce que c'est une sorte, comment on dit, d'intertextualité, c'est ça?
Ouais, alors, c'est... Comment vous dire? Cette liste, presque tous mes livres terminent par une liste alphabétique de gens, et dedans, ça va de Marcel Proust à Pierre Perret. Et souvent, ça a été interprété comme étant des gens qui m'ont influencé. Pas du tout, hein. En fait, mon idée est la suivante. C'est quand je suis, quand je travaille, je peux pas m'empêcher de m'apercevoir que un mot que j'utilise, je l'utilise parce que je l'ai lu quelque part, que une image vient d'ailleurs. Je vais prendre un exemple très concret, hein. Dans 3 jours et une vie, par exemple, je veux trouver une expression. Il y a eu une énorme tempête, on ouvre la porte, le village est dévasté. Et je veux trouver une image comme ça. Et ce qui me vient à l'esprit, c'est village bombardé. Et je me dis, c'est marrant, village bombardé, c'est pas une expression à moi. J'étais en train de lire Vernon Subutexte de Virginie Despentes. Et je le rouvre et je retrouve, effectivement, elle dit un truc formidable, elle dit, il y a 40 ans, la vie de tout homme ressemble à un village bombardé. C'est une très belle expression. Et donc, cette image de ville bombardée m'avait frappé. Et donc, ça m'a semblé un clin d'œil à la littérature et à moi-même. Virginie Despentes, je ne la connais pas, hein, je ne l'ai jamais rencontrée. Mais ça m'a semblé, pas une politesse, mais une manière à moi de me sentir entouré d'un certain monde. Et ce monde m'a apporté des choses et ma façon à moi de remercier le monde de m'avoir apporté tout ça. Pour Pierre Perret, c'est marrant, j'ai un personnage, il a un strabisme divergent. Et ce qui me vient à l'idée, c'est il a un œil à Elbeuf, l'autre à Colmar. Et je me dis, cette expression, un œil à Elbeuf, l'autre à Colmar, c'est une chanson de Pierre Perret. Et j'ai mis d'ailleurs dans le texte, il avait un œil à Elbeuf, l'autre à Colmar, comme dans la chanson. Il y a des gens qui m'ont dit, mais quelle chanson? Je dis, c'est dans Pierre Perret. C'est marrant.
Alors, vous avez des citations qui vous entourent, vous vivez avec des personnages que vous avez lus, d'autres romanciers par exemple, et puis aussi le cinéma qui est quand même toujours présent, qui est toujours là. Un des grands maîtres qui vous a servi de modèle, c'est Hitchcock. Ouais. En quoi Hitchcock vous a-t-il servi, Pierre Lemaitre?
Alors, bizarrement, pas tant dans ses films que dans un livre que je trouve absolument magnifique et que je conseille vraiment à tous les gens qui écrivent, c'est la série d'entretiens qu'il a donné à Truffaut. Truffaut était allé voir Hitchcock et ils ont balayé toute la filmographie de Hitchcock et il a commenté chacun de ses films. Et il y a là-dedans une mine d'or de conseils narratifs et vous pouvez les exporter du cinéma au roman. Il dit des choses absolument formidables. C'est lui, par exemple, qui invente le truc de la bombe sous la table. Ça, c'est... On le trouve dans Dumas, mais la théorisation la plus parlante, la plus efficiente, c'est chez Hitchcock. Alors il dit, voilà, c'est pas compliqué, imaginons qu'il y a une bombe sous la table, vous avez deux manières de le jouer, ça. Soit vous le dites au spectateur, donc vous le dites au lecteur, il y a une bombe sous la table, et donc le lecteur va attendre le moment où ça va exploser. Ça s'appelle le suspense. Soit vous ne le dites pas, et quand ça explose, ça s'appelle une surprise. Et donc la surprise et le suspense, ce qu'on trouve chez Dumas. Hein, Dumas, c'est très très bien utilisé l'opposition entre les deux, et donc c'est une question de pertinence, c'est-à-dire de savoir dans la situation dans laquelle vous mettez vos personnages, qu'est-ce qui va être du point de vue de l'efficacité narrative le plus payant, la surprise ou le suspense. Ça, je le dois à Hitchcock.
Et quelle place pour l'ironie, pour l'humour, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans certains de vos romans, pas tous, mais dans certains de vos romans, vous prenez de la distance par rapport à vos personnages, vous faites un clin d'œil, par exemple, au lecteur de temps en temps, et c'est une façon aussi de dire, voilà, on ne vous la fait pas en tant que lecteur, je ne vous la fais pas en tant qu'écrivain.
Oui, je vous la joue pas, c'est un peu brechtien, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire, moi j'aime bien l'idée que le lecteur soit dans le roman. Il y a rien, moi, qui me plaisait plus quand j'étais un jeune lecteur que d'appartenir à un roman le temps de sa lecture. Vous voyez, c'est pas le roman qui vous appartient, c'est vous qui appartenez au livre que vous lisez. Moi, c'est des moments de lecture que j'ai adoré, et c'est ce que j'essaye de faire modestement à ma manière.
Et quand Hugo ou quand un auteur de roman feuilleton du 19e fait ça, c'est pour rappeler généralement un épisode que le lecteur a jeté avec le journal dans lequel il l'a lu, par exemple.
Oui, mais on trouve aussi ça, par exemple, dans Jacques le Fataliste, au début de Jacques le Fataliste, hein, dans Jacques et son maître, Diderot intervient dans le récit en disant, là, vous voyez, lecteur, il me serait facile d'envoyer Jacques dans les îles, de le faire cocu, qu'il est facile de faire des contes, et hop, il revient à son histoire. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce siècle très champagnisé, c'est la facilité, la liberté qu'on trouve chez Beaumarchais, cette espèce de liberté qui fait que d'un seul coup on peut s'adresser au lecteur, revenir au récit.
Moi, j'essaie. Comme chez Goldoni, par exemple.
Comme chez Goldoni, absolument. Et moi, c'est une chose qui me réjouit en tant que lecteur. Et en fait, j'aime bien de temps en temps, effectivement, jouer avec le. Enfin, comment dire, renouveler en permanence le contrat un peu implicite que j'ai avec le lecteur. Vous voyez, par exemple, dans le dernier livre, dans Couleur de l'incendie, je fais revenir un personnage de Au revoir là-haut. Il s'appelle Dupré. Alors, bon, je me dis, bon, comment je vais faire? Parce que j'ai deux lecteurs. J'ai celui qui aura lu Au revoir là-haut et qui peut-être se rappellera de ce personnage, puis celui qui ne lira que ce livre-là, à qui il faut que je raconte un petit peu qui il était. Donc comment est-ce que je fais pour que ce soit pas ennuyeux, que ce soit pas pédant, puis qu'on dise pas d'un seul coup une note en bas de page, vous voyez, je veux essayer de trouver un truc qui soit vraiment narratif, quoi. Et donc je me dis Dupré, et ben je me dis le plus simple c'est de parler au lecteur. Et donc je dis arrivé monsieur Dupré, je dis Dupré, mais si, Dupré. Et donc, je parle au lecteur et je lui raconte le truc. Je trouve que c'est des moments de complicité entre le lecteur et le romancier qui moi, me ravissaient quand j'étais jeune lecteur et qui me ravissent encore. Ça se fait plus beaucoup. Moi, je le fais encore.
Oui, alors, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, vous n'écrivez pas un roman feuilleton. C'est-à-dire que ça n'est pas chapitre après chapitre. Donc, il faut ménager un suspense. Arriver à la fin d'un chapitre en se disant peut-être le lecteur en a-t-il assez, il va fermer le livre pour ce soir et le reprendre demain matin ou demain soir. Mais donc ça n'est pas la même mécanique d'écriture que les romanciers du 19e que vous vénérez tant, parce que eux ils publiaient chaque jour un nouvel épisode de leur récit.
J'ai moins de contraintes qu'eux. Hein. Mais ce que j'ai conservé de leur contrainte, c'est que ça les avait amenés à avoir une très grande technique dans le maniement de la surprise, du rebondissement et de ce qui va créer l'appétit de lecture. Et ça, c'est une chose, par contre, à laquelle je suis attentif. Vous savez, García Márquez, il dit, en fait, quand je m'ennuie, je me dis que c'est le moment où le lecteur va s'ennuyer lui aussi. Voilà. Et moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Je me dis, une description qui est un petit peu longue ou une situation, je me dis, bon, si moi, je commence à m'ennuyer en la relisant, si je me dis, c'est un petit peu long, je me dis, le lecteur doit penser la même chose. C'est très bête, mais qu'est-ce que vous voulez comme autre boussole que celle-là?
Qu'est-ce qu'une bonne scène?
Alors, une bonne scène, c'est une situation prometteuse, c'est-à-dire que si le lecteur fermait le livre à ce moment-là, il soit dans une situation dans laquelle la situation est tellement prometteuse qu'il a envie de le rouvrir. Il faut que la situation soit prometteuse, qu'elle pose une question, qu'elle révèle un mystère, qu'elle appelle une réponse, qu'il y ait quelque chose en suspens, voyez. La deuxième chose, c'est que dans la scène, il doit se passer quelque chose qui fait avancer le récit. Une bonne scène, ou un bon chapitre, c'est un chapitre qui n'a pas été simplement là et qui fait que si vous l'enleviez, ça changerait rien à votre histoire. Il faut que vous disiez, cette scène-là, si je l'enlève, il y a un truc qui marchera plus. Donc il faut qu'elle ait une nécessité, hein, en quelque sorte. Et il faut que du point de vue de son rythme, c'est la troisième qualité, j'ai envie de dire, c'est que le style, la question du rythme, colle avec le propos. En fait, le style, c'est l'adéquation entre le fond et la forme, hein, pour faire court. Et il faut qu'une bonne scène, c'est une scène qui est écrite dans le rythme qui convient par rapport à la situation telle que vous la développez.
Comment choisissez-vous, selon le type de roman que vous écrivez, Pierre Lemaitre, le type d'écriture et peut-être même les changements d'écriture à l'intérieur d'un même roman?
Alors, c'est deux questions différentes. La première, c'est je choisis pas l'écriture, je pense que c'est le sujet qui va le faire. Vous voyez, si vous avez un sujet de roman policier, bah, vous allez devoir respecter les règles du roman policier. Une histoire, elle a un ADN, Emmanuel. Il y a un code génétique d'une histoire. J'ai le cas avec Au revoir là-haut. À l'origine, je voulais faire un polar historique.
Et ça marchait pas.
Mais non, ça marchait pas. Le code génétique était pas là. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionnait pas. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne mon histoire? Ou est-ce que je la garde? Bon, puis au bout d'un moment, j'avais commencé, l'histoire me plaisait bien. Je dis, bah, ça sera pas un polar, tant pis, ça sera autre chose. Bon, c'est pas mal tombé, finalement. Hein, pas mal tombé. Hein, ouais. Oui, ça a bien marché, ce truc-là. Donc j'ai eu de la chance.
Et là, mais, on va chercher. On change comment son écriture? Dans le coup, elle va vers où? Elle va vers Don Quichotte? Elle va vers.
C'est pas en termes d'influence que ça se pose, c'est en termes de technique narrative.
Voilà. Hein,
c'est-à-dire, en fait, vous regardez l'ADN de votre histoire, et si vous êtes dans un roman policier, vous allez devoir tenir plus compte de l'intrigue que des personnages. Si vous êtes dans une histoire dont l'ADN est plutôt un thriller, vous allez travailler sur l'identification, et donc vous allez mettre en place tous les éléments autant que vous pouvez, pour qu'il y ait une identification du lecteur au personnage et que ce soit la victime. Si vous écrivez un roman historique, vous allez devoir satisfaire une curiosité historique qui est demandée par le lecteur, mais en même temps sans sacrifier au plaisir de l'intrigue. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, je respecte l'ADN de mon histoire et c'est ça mon baromètre, quoi.
Quelle place pour le social dans vos romans ?
Si vous voulez, la question que je me pose quand je commence un roman, c'est je me dis, bon voilà, j'ai l'idée d'une intrigue, je vois mes personnages, je me dis, bon, ça va servir à quoi ? C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière ce livre ? C'est-à-dire, une fois qu'on va l'avoir lu, qu'est-ce qui va en rester ? Est-ce que l'intrigue ne renvoie qu'à elle-même ? C'est la définition un peu de la littérature populaire, pour faire court. Ou est-ce que je veux qu'il y ait une perspective ? Et la première question que je me pose, c'est à quoi va servir mon histoire ? Alors, de temps en temps, c'est sur le monde social. C'était le cas, par exemple, sur Cadre Noir, qui raconte, pour faire court, hein, l'histoire d'un chômeur de 57 ans qui va à son dernier entretien d'embauche avec un Beretta chargé à balles réelles. Ou alors c'est plutôt une histoire de famille, c'est sur la violence familiale, c'était le cas d'Alex par exemple, c'est sur la question de la famille névrotique, c'est la famille qui rend fou, c'était plutôt Robe de mariée. Donc je me pose la question de savoir à quoi sert le livre et qu'est-ce qu'il va y avoir derrière l'intrigue. Et c'est ça qui va me guider. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière, c'est pas forcément du social, ça peut être du psychologique. Mais Emmanuel, je n'avance pas masqué. N'importe qui lisant un de mes livres sait qui je suis, quel auteur je suis, quel est mon cadre de référence et ce qui m'agit. Je crois que ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas penser à la place du lecteur. C'est-à-dire de faire en sorte que, à la fin de mes histoires, le lecteur, il ait l'espace pour faire de mes personnages ce qu'il veut, les condamner, les racheter. Il faut que le lecteur, il ait cet espace-là et donc je ne pense pas à sa place. C'est pas mon boulot. En revanche, je n'avance pas masqué et n'importe qui lisant un de mes livres sait à qui il a affaire. Ça me paraît être une espèce d'hygiène dans le rapport simple et sain entre un romancier et un lecteur.
Qu'est-ce que la vraisemblance pour vous, Pierre Lemaitre ?
Je suis très embêté avec cette question de la vraisemblance parce qu'elle renvoie à la notion de la vérité. Alors, moi, mon rapport à la vraisemblance, c'est qu'est-ce qui va, à un moment, heurter la lecture ? Mon idée, si vous voulez, rappelez-vous de ce que j'ai lu tout à l'heure sur le petit extrait de Stevenson, c'est de rentrer dans une histoire et il faut que ça soit Pullman. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur rentre. Mais non, mais il faut que ça soit chaotique, il faut que ça soit remuant, bien sûr. Mais je veux dire, il faut que la lecture, il ne faut pas qu'elle soit d'un seul coup arrêtée par quelque chose, il ne faut pas qu'il y ait d'obstacle à la lecture, il faut qu'il y ait des heurts, parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose dans le ventre du lecteur. Mais il ne faut pas que d'un seul coup, le lecteur se dise, oh, c'est quand même bizarre ce qui arrive à ce gars-là. Vous voyez, là, si le lecteur sort de l'histoire, ça marche pas. Donc la question.
Pourtant, c'est quelquefois c'est invraisemblable. Enfin, si vous allez jusque à imaginer des concours de faux monuments aux morts après la Première Guerre mondiale, on se dit. C'est vraisemblable.
Non, mais j'ai des trucs pires encore dans Robe de mariée. J'ai même fabriqué un pro-dépresseur qui rend fou en 48 heures. Franchement, c'est un truc. Ça marche pas du tout. Même dans Eugène Sue, on trouverait pas un truc aussi ridicule. Mais franchement, le bouquin il est pas mal.
Ouais.
Ce que je veux dire, non, c'est pas de l'autosatisfaction. Non, ce que je veux dire, c'est, voilà, il y a une théorie.
Si ça marche.
Mais non, mais c'est pas ça. C'est, Coleridge, il a, on est ici à France Culture, la BNF, on peut être pédant. Hein, ouais. Donc, on va parler de la suspension d'incrédulité.
Ah, bon, très bien, très bien.
Allez, on y
va. Qu'est-ce que vous faisiez devant les bibliothécaires quand vous gagniez des cours, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Non, en fait, Coleridge, il dit un truc très simple, hein, pour faire court. Cette suspension d'incrédulité. Il dit, si un roman, si ça marche, si vous êtes bien dans un bouquin, vous êtes prêt à pardonner beaucoup de choses et à passer sur beaucoup de choses. Hitchcock, là encore, dit « déplier n'importe quelle histoire, la somme de trucs invraisemblables que vous allez trouver, c'est phénoménal. »
Oui, c'est l'histoire du gigot congelé que la femme est servie pour assassiner son mari sert aux policiers qui sont venus pour constater le meurtre.
Voilà. Bon, donc, en fait, Hitchcock, il a raison. Vous dépliez n'importe quelle histoire, c'est bourré d'invraisemblances. Mais je pense comme Coleridge que si vous avez happé votre lecteur, si vous l'avez attrapé, si il est bien dans son histoire, si vous respectez votre part du contrat qui est de lui raconter une histoire qui va avoir son utilité, c'est-à-dire que derrière l'histoire il y a autre chose, mais que vous le racontez d'une manière qui soit enveloppante, il est prêt à passer sur beaucoup de choses. Et il y a plein de choses qui sont invraisemblables sur le papier, que le lecteur est prêt à passer, quitte à refermer le livre en se disant, quand même, il y va un peu fort. Mais le lecteur honnête pourrait dire, il y va un peu fort, mais quand même, j'ai pris du plaisir.
Alors, vous avez souvent rendu hommage aux historiens.
Pardonnez-moi, je peux rajouter,
oui, Daniel.
J'ai pas pu résister. Albert Maillard, à la fin d'Au revoir là-haut, au premier chapitre d'Au revoir là-haut, bon, il est dans son trou d'obus, hein, c'est un type, il est enfermé comme ça dans un trou d'obus, il va mourir asphyxié. Donc normalement, il faut qu'il soit vivant parce que c'est mon personnage dans la page 40. Voyez, donc il faut quand même qu'il soit vivant. Mais j'ai pas pu m'empêcher de dire Albert Maillard, soldat, vient de mourir. Je n'ai pas pu m'empêcher.
Oui, c'était bien ça.
Mais oui, c'était bien. J'ai pas pu m'empêcher. Vous savez, c'est comme les gens, ils peuvent pas s'empêcher de faire un bon mot. Ils savent qu'ils vont se fâcher avec la terre entière, mais ils vendraient leur âme pour un bon mot. Et moi, je vendrais mon âme pour un bon. Franchement, c'est à peine vraisemblable.
À la bouche de cheval, effectivement.
Mais ça marche pas mal.
Oui, ça marche pas mal.
Ça marche pas mal. Vous savez, il y a un truc qui me plaisait beaucoup chez les feuilletonistes, c'est ce type qui avait été viré du journal. Et comme il avait été viré, il avait mis son héros dans une situation inextricable, une camisole, enchaînée. Est né dans un coffre au fond de la mer. Et puis, il avait à suivre. Donc, tout le monde a essayé de faire la suite. Personne n'a réussi. Donc, on l'a rappelé. Et le lendemain, il est ouvert. Lorsque notre héros se fut libéré. Voilà. Et ça marche très bien. Et moi, j'aime bien ce genre de truc. Alors, je vais pas jusque-là. Mais je sais que le lecteur peut me pardonner des choses. Parce que si je travaille bien, si je fais en sorte que ça ne le heurte pas dans la lecture, que ça, à un moment, ça fait pas vriller son plaisir, je me dis, il va m'accorder plein de trucs. Ça fait partie du contrat, je trouve.
Mais quand ce lecteur est un historien, puisque vous rendez hommage à beaucoup d'historiens.
Oh là là.
Alors, comment faire? Parce que c'est la question du bouton de guêtre. Est-ce qu'il vous juge sur la qualité du bouton de guêtre et de sa restitution romanesque?
Oui.
Sur autre chose.
Ben écoutez, alors les historiens professionnels me pardonnent beaucoup de choses et d'une manière générale, ils me reçoivent avec beaucoup d'empathie, beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse. Les historiens amateurs sont beaucoup plus sévères. Il y a un type qui m'a écrit une lettre, monsieur, à la page 47, je pense que c'est 47, me dit, vous parlez d'une grenade offensive, ne s'agirait-il pas plutôt d'une grenade défensive? Et là-dessus, il me fait 12 pages de considérations militaro-balistico, je sais pas quoi. J'ai envie de lui dire, mais j'écris pas pour les armuriers, quoi. Je m'en fous. Et alors, savez-vous pourquoi? En fait, le type, il était offensif. Je voulais qu'il soit agressif. Je voyais pas un type agressif lancer une grenade défensive, c'est complètement con. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, mais c'est vrai que du point de vue balistique, ça peut pas être une grenade offensive. Donc, pour le livre de poche, j'ai changé. Mais je dis, bon, je sacrifie un truc, c'est un peu dommage. Vous voyez? Moi, je pense que de temps en temps, bah, voilà, vous allez trouver en 1932 une voiture qui n'a été commercialisée qu'en 34. Alors, il y a des gens qui m'écrivent, monsieur! Ils sont furieux, furibards. Bon, mais moi, ça m'amuse. Les historiens professionnels m'accueillent avec gentillesse et bienveillance.
Oui, parce que ce qui compte, c'est le décor général. Vous parliez tout à l'heure des personnages de premier plan et des personnages de second plan.
Ouais.
Comment faites-vous cette distinction entre les types de personnages et en quoi, justement, il est nécessaire d'avoir un second plan, peut-être même un troisième, avec des personnages qui donnent de l'épaisseur de la profondeur de champ comme au cinéma?
Ouais. Et ben, c'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire, si vous ne, dans le type de roman que j'écris, encore une fois, tout ce que je dis n'est valable que pour le type de roman que j'écris. Hein. Je pense que si on discutait, cette masterclass qui accueille plein d'écrivains va montrer que je travaille de cette manière et qu'il y a plein d'autres manières de travailler parce que on travaille à d'autres types de roman. Mais dans le type de roman que je fais, c'est, comment vous dire, je ne sais pas comment l'exprimer. Pour qu'il y ait une profondeur, il faut qu'il y ait des personnages qui nourrissent l'histoire sans être des gens dont l'histoire dépend. Il faut que votre intrigue soit nourrie par des personnages secondaires pour donner de la profondeur de champ, mais ils sont secondaires en ce sens qu'ils n'ont pas d'utilité pour faire avancer votre intrigue directement. Ce qui fait avancer l'intrigue directement, ce sont les personnages principaux et ce qui va leur arriver. Les personnages secondaires vont nourrir le fond, vont nourrir bien sûr l'intrigue, mais l'intrigue ne va pas dépendre d'eux. C'est un petit peu la différence. Et moi, je soigne beaucoup les personnages secondaires parce que je sais qu'au cinéma, c'est une chose que j'aime énormément. Il y a des personnages secondaires, vous dites, c'est absolument épatant ce personnage, il est criant de vérité, il est venu, il a juste dit un truc, mais vous y avez cru. Et ça, c'est ce qui vous donne, d'une certaine manière, la véracité du récit et ce qui vous fait croire au truc. En fait, c'est simple. Gras qui dit ça. Il dit, en fait, lire un roman, c'est croire à l'histoire qu'on nous raconte. Et pour croire à l'histoire qu'on nous raconte, il faut des bons personnages secondaires, comme dans la vie.
Alors, prenons des exemples. Dans Au revoir là-haut, Joseph Merlin. Joseph Merlin, c'est celui qui va révéler une des deux supercheries qui sont emboîtées, pourrait-on dire, dans Au revoir là-haut, la supercherie aux cercueils qui sont trop courts, donc qui sont fabriqués par sous l'égide de celui qui est un des héros de l'intrigue. Joseph Merlin est un inspecteur. Vous aimez ce personnage, visiblement, c'est un personnage de premier plan ou un personnage de second plan ?
Alors, c'est un personnage de premier plan. L'astuce, c'est qu'il arrive tard dans le roman. Ça, c'est une astuce. Vous voyez, parce que normalement, on a l'impression que les personnages principaux, ils sont là dès le début du roman, on va les emmener. Moi, j'aime bien jouer encore avec le lecteur. Il y a un personnage, on se dit, bon, il arrive tellement tard, il arrive à la page 400, on se dit, qu'est-ce qu'il va nous apprendre ? Or, lui, il va changer très directement l'intrigue. Donc là, c'est une astuce. Il y a un truc sur les personnages dont je me sers un petit peu, c'est la distinction que Forster fait sur les personnages plans et les personnages en relief. Mmh. Il dit un truc qui est assez, moi je trouve assez opérant. Il dit enfin qu'il y a deux types de personnages. Le personnage plan, c'est un personnage, on s'appelle flat character et round character. Alors le personnage plan, c'est un personnage qui est réductible à une devise. Alors je crois qu'il prend comme exemple Madame Micawber dans Dickens, je n'abandonnerai jamais mon mari. Alors il y a plein d'exemples, Javert par exemple, je veux arrêter Jean Valjean. Vous savez que c'est sa devise, c'est-à-dire qu'en fait, il est en quelque sorte vectorisé par quelque chose qui l'agit. Mais on en trouve chez Proust. Par exemple, Saniette, est un personnage plan au sens de Forster, c'est-à-dire c'est je subirai toutes les humiliations pour rester dans le clan. Voilà. Bon, ça, voilà. Et puis, il a les personnages en relief qui, eux, sont des personnages plus imprévisibles. On ne sait pas dans une situation de quel côté ils vont tourner, comment ils vont... Et c'est intéressant, cette notion-là, c'est que le personnage plan est un personnage extrêmement économique sur le plan narratif. Parce que vous prenez un petit peu de temps pour le définir, mais après, une fois qu'il est défini, et que le lecteur le connaît, il suffit de dire « Javert arrive » et le lecteur voit tout de suite l'ombre de Javert. Et d'un seul coup, toute la chaîne des images qui est associée à Javert se réactive. Et vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Vous dites « Javert dit, que se passe-t-il » Tout le monde est terrifié. Vous voyez, en fait, « que se passe-t-il » c'est une phrase assez banale. Mais quand c'est Javert qui dit, on est tous terrifiés. Et c'est comme ça qu'est fabriqué, par exemple, Dolnay Pradel.
Ouais.
Son truc, c'est un salaud intégral, ouais. C'est un salaud sphérique.
Après, jusqu'au bout.
Voilà, c'est un salaud sphérique. Ouais. Et donc, je veux, moi, que le lecteur, chaque fois qu'il le voit arriver, se dise, il va encore faire une saloperie. Et ça, c'est très payant, parce que j'ai plus besoin de faire beaucoup de choses, il est très économique. Je dis, Pradel arrive, on dit, oh, quel salaud, il a rien fait.
Et la Bourdin entre dans le paysage,
oui, alors...
se maire donc, de Paris, un des arrondissements de Paris,
oui.
Et on sait qu'il est un imbécile grandi par la bêtise. Donc, la Bourdin, on sait qu'il va faire une... D'ailleurs, son nom le dit, il va faire une bourde.
Oui, oui.
Et qu'il va être engueulé par le personnage principal ou un des personnages principaux, parce qu'il va faire une bourde, justement. C'est ça aussi qui... Vous aimez bien ce terme de sphérique ?
Oui.
Parce que c'est un imbécile sphérique aussi, lui.
Oui, oui, c'est ça. Oui, 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 oui.
Un imbécile sphérique, c'est quelqu'un qui... qu'on le tourne dans n'importe quel sens, il se révèle toujours aussi stupide. Rien à comprendre, rien à attendre, dites-vous.
Oui, oui. Alors, en fait... Je peux lire un tout petit truc, si
allez-y.
Vous voulez bien, qui vient de Stevenson.
Encore
Bah oui. Non, lisez vraiment les essais sur le roman de Stevenson, c'est rempli de trucs vraiment utiles. Vous permettez, j'ai pas fait beaucoup de citations.
Allez-y.
Vous m'avez autorisé deux, c'est la seconde.
C'est vrai.
Je n'abuse pas, Emmanuel. Écoutez, n'importe qui peut écrire une nouvelle, je veux dire une mauvaise, avec un peu d'application du papier et du temps devant lui, mais tout le monde ne peut espérer venir au bout d'un roman, même mauvais. C'est la longueur qui tue. Le romancier chevronné peut travailler quelque temps à son roman, le laisser peiner en vain des jours durant. Il n'en va pas de même pour le débutant. La nature humaine a certains droits. L'instinct de conservation interdit que quiconque puisse supporter, au-delà de quelques semaines, les souffrances d'un labeur littéraire infructueux. Ça veut dire, en d'autres termes, écrire un roman, c'est long. C'est long. C'est 2000 heures pour moi.
Ouais. Hein?
Bon, ouais. Allez, 2000 heures. Donc c'est long. Donc si vous n'avez pas du plaisir... Je suis dans l'histoire de la Bourdin.
Ouais.
Quand arrive la Bourdin, dans mon plan, il y a une histoire politique, il me faudra un personnage, alors je ne sais pas qui ce sera, mais quelqu'un par qui le scandale va arriver. Bon. Mais en fait, comme c'est une sous-intrigue, ce n'est pas nécessaire de le définir au niveau du plan. Puis quand j'arrive là, ça fait des mois que je travaille, vous voyez, mon compteur doit être à 650 heures. Je relis Stevenson, je dis il a bien raison, ce brave homme. Et donc j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de trouver des relais, j'ai besoin de trouver du plaisir à mon métier. Et donc quand arrive la Bourdin, c'est comme quand arrive Lady, comme quand arrive Merlin. Je me dis ah c'est bien, là on va rigoler, ça va être bien. Et donc là pendant un moment, il m'offre ce relais et d'une certaine manière, je fais le pari que ce qui m'a offert un relais en tant qu'auteur va offrir un relais aussi en tant que lecteur. Quoi.
Oui, c'est comme ce prêtre à qui vous ne donnez pas de nom, mais où Madeleine, chez qui Madeleine Péricourt va, oui. Et vous dites le prêtre ne s'était pas montré très à l'aise quant au dessein du Seigneur. Mais sur les questions de culpabilité, de mauvaise conscience, de faute et de plaisir suspect, il était comme un poisson dans l'eau.
Oui. Bon, voilà. Je disais tout à l'heure que je m'avance pas masqué, c'est un très bon exemple.
Ouais, c'est ça. Donc on arrive à la fin d'un chapitre et on se dit, voilà, ce prêtre-là, son compte est fait, oui. Et on a envie de continuer tout de suite derrière.
Oui. Parce que... Alors les curés, les banquiers, les garagistes, voyez, j'ai un certain nombre de bêtes noires, et puis les guénaux. Dans presque tous mes romans, il y a un guénaud.
Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'un guénaud? Qu'est-ce que c'est alors justement ?
Alors un guénaud, c'est un personnage à qui vous avez envie de faire du mal. Hein ? Alors dans un feuilleton de télé, je l'ai coupé en 7 morceaux. Hein, il y avait une victime, il était coupé en 7 morceaux, j'ai dit c'est un guénaud. Par exemple là, dans le dernier roman, c'est un avocat véreux hein, qui va se faire casser les deux tibias à coups de batte de baseball. Enfin, ou à coup de canne, puisqu'on est en 1930, hein, à coup de canne, et je dis, ah, celui-là, on lui fait mal, c'est un guénaud. Donc, j'ai presque toujours un guénaud, hein, on peut les chercher. Il y a une généalogie des guénauds. Dans Alex, j'ai une guénaud qui est une mère maquerelle. C'est une coiffeuse, une patronne de salon de coiffure, qui fait avec ses filles le coiffeuse comme dans un bordel. Donc, c'est une guénaud, Madame Guénaud.
Comment vous jouez, Pierre Lemaître, avec la période de lecture du lecteur, c'est-à-dire comment faites-vous pour que vous parlez d'une période, à un moment donné vous parlez d'une période passée, et les années 30 par exemple, ou les années 20, mais en fait vous faites un clin d'œil au lecteur quand vous écrivez cette notion de vitesse résonnée dans tous les esprits depuis 10-15 ans, la rapidité ne cessait de croître, celle des automobiles, celle des trains, le monde tournait de plus en plus vite, on voyait mal pourquoi le ciel, on parle d'un avion, serait épargné par cette universelle course au record. Alors effectivement, c'est vrai pour les années 20, pour les années 30, mais c'est aussi vrai pour aujourd'hui. Et le lecteur, il lit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez tout de suite à cette correspondance que va faire le lecteur avec la période nous connaissons aujourd'hui?
Oui, alors dans le cas des années 30, c'est même plus compliqué encore que pour les autres livres. C'est que on a vu pas mal d'essais, vous les connaissez, où on a dressé un comparatif entre les années 30 et aujourd'hui. Bon, moi je trouve que le comparatif ne tient pas parce que les paramètres sont pas les mêmes. Je ne pense pas, je ne suis pas un historien, hein, je suis un romancier. Je reste à ma place, mais à la place où je suis, pour moi cette métaphore, enfin cette correspondance ne marche pas. En revanche, il y a effectivement des correspondances, et donc quand je trouve une correspondance et en lisant Gallica, hein, quand je vois un truc qui sert à mon histoire, et je me dis tiens, il y a une résonance avec aujourd'hui, je réfléchis, et je me dis bon, quel sens elle a? Est-ce qu'elle ne pousse pas trop à l'égalité entre les deux périodes? Est-ce qu'elle apprend quelque chose? Vous voyez, je découvre que la fraude fiscale est un véritable sujet social et politique dans ces années-là.
Et que la Suisse est une destination courue de ceux qui ont beaucoup
d'argent.
Oui, puis
c'est l'année, c'est quasiment la période de l'invention du compte numéroté, qui a une belle carrière devant lui. Hein. Donc, je ne peux pas m'empêcher de me dire, je vais l'utiliser parce que c'est payant pour le lecteur, mais d'abord, quel sens ça a ? Je veux, et c'est pour ça aussi que je travaillais avec une historienne, Camille Clairet, à qui je demande des notes pour alimenter et pour m'aider à comprendre la période, surtout dans les années 30, qui est plus casse-gueule, quoi. Vous voyez, c'est plus compliqué de parler des années 30 que de parler, de la troisième dynastie chinoise. Vous voyez, bon, c'est là où il y a moins de risques, quoi. Je dis n'importe quoi, personne n'y connaît rien. Vous voyez, là, les années 30, on sait.
Sauf les spécialistes de la troisième
dynastie. Oui, mais enfin, j'écris pas pour eux. Hein, bon. Mais enfin, donc là, je demande à Camille de me faire des notes et de relire. Mais je suis très attentif à la qualité des résonances pour qu'elles restent à leur place. C'est-à-dire que ces résonances ne prennent pas de la place, qu'on n'ait pas l'impression que je suis en train de dire, vous voyez, dans les années 30, c'est comme aujourd'hui, mais qu'on se dise, ah tiens, c'est quand même marrant, la technocratie naît dans ces années, la fraude fiscale, on en parle déjà. Donc je trouve que c'est intéressant à la condition que ce soit mesuré et que le curseur soit précis.
Un dernier mot, Pierre Lemaître, sur le style et le qualificatif qu'on vous donne de romancier populaire. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pose toujours la question en disant, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Mais justement.
Vous voyez ?
C'est pas moi qui le dis, mais c'est souvent ce qu'on trouve dans les articles de presse. On dit, voilà, c'est du grand roman populaire, parce qu'on le...
Oui, alors, attendez, Emmanuel, là, c'est pareil. Si on dit, c'est un type qui relève de la littérature populaire, c'est une chose. Si on dit, c'est du grand roman populaire, on dit autre chose. Ouais. On s'excuse, on dit, bon, c'est une insulte.
Hein,
clairement, vous êtes un auteur de romans populaires, vous n'êtes pas un romancier, vous êtes un tâcheron, vous êtes un conducteur de poids lourd. Vous voyez, bon, donc c'est pas de la littérature. Vous voyez, il suffit de lire Libé, Lumat, hein, ils savent très bien expliquer que c'est pas de la littérature. Bon, peut-être qu'ils n'aiment pas le peuple, je sais pas. Enfin bon, c'est une autre affaire. Ils n'aiment pas la littérature populaire, ils trouvent que c'est un gros mot. Mais alors, quand on dit grand livre populaire, c'est comme si on disait c'est de la littérature populaire, mais c'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Il y a des trucs là-dedans. Vous voyez, bon, moi, je vais vous dire, ma définition, elle est assez simple et un peu basique. Elle va pas faire rêver beaucoup, mais je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Je pense qu'un grand roman populaire, pour reprendre l'expression que vous donnez, c'est pas moi qui qualifie ma littérature, c'est un livre assez fédérateur pour que différents types de lectorats s'y retrouvent. Je crois, moi, que quand on lit un de mes romans, je prends l'exemple de Couleur de l'incendie, qui est le dernier, je pense que des adolescents qui veulent lire un peu, parce que je reprends l'histoire de Monte Cristo, donc, qui veulent lire une histoire d'aventure, veulent savoir comment la vengeance va se passer, peuvent le lire au premier degré de l'intrigue, qui, j'espère, va être intéressante. Ça, c'est un premier lectorat. Puis, un deuxième cercle, c'est ceux qui vont, comme vous, qui êtes un historien, vous allez dire, bah oui, tiens, là, il y a des ressemblances, il y a des ponts qui, des correspondances, qui va vous faire réfléchir sur la distance, la fraude fiscale, ben c'est intéressant dans les années 30. Bon, voilà, ça c'est un deuxième lectorat. Puis un troisième lectorat qui va voir que, ben, vous voyez, à un moment, mon député, il dit, j'ai recopié Verdurin, hein, vous voyez, à la fin c'est pas Monsieur Verdurin, c'est le comte de Guermantes. Il dit à Swann, allez, et puis ne vous embêtez pas avec ces imbéciles de médecins, vous vous portez comme le pont neuf, vous nous enterrerez tous. Bon, on trouve la même phrase chez un de mes personnages, et donc il y a des lecteurs qui sont plus proustiens, qui vont dire, tiens, c'est un petit clin d'œil à la fin de Guermantes. Et je pense que ces lectorats peuvent cohabiter. Et pour moi, un livre populaire, c'est un livre qui permet de faire cohabiter ces différents lectorats, sans qu'un lectorat exclue les autres. C'est pas parce que vous avez reconnu un moment de Proust, il y a un moment de Victor Hugo. Par exemple, j'avais préparé un petit truc là pour la masterclass, et puis on n'aura pas le temps de le faire, mais j'avais fait un petit pastiche de Victor Hugo dans Couleur de l'incendie. Ceux qui vont le trouver vont avoir un clin d'œil, mais en même temps, ceux qui ne le verront pas ne seront pas privés de la lecture. Donc, ce que j'appellerais populaire, c'est au sens où un peuple, c'est celui qui rassemble et qui fédère une diversité, et la diversité du lectorat, si elle peut se retrouver à différents niveaux, j'ai l'impression que le compte y est, quoi.
Allez, Victor Hugo, de pastiche.
Allez, parce que j'avais droit à deux citations, vous m'en donnez une troisième.
Quelle générosité.
Je serais magnifiquement reçu. Il faut que je trouve. Voilà. Alors, rappelez-vous dans Les Misérables, je vous fais que la fin. Il y a Monsieur Myriel, c'est tout à fait au début. Et voilà ce que dit Victor Hugo. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de Monsieur Myriel? L'écroulement de la société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93 firent germer en lui des idées de renoncement et de solitude. Fut-il, au milieu de ses distractions et de ses affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent parfois renverser, etc. Bon, hein. Et puis à la fin de cette série de questions, il dit, nul ne saurait le dire, ce qu'on savait, c'est que lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. Bon, moi je me trouve, alors bon, Victor Hugo, bon, voilà, moi j'adore. Bon, j'ai caviardé un peu le texte, hein, bon, hein, mais pour les besoins de l'émission. Et donc, dans Couleur de l'incendie, à un moment, Solange Gallinato est en face du petit Paul, et je veux, il va se passer quelque chose, c'est une diva, un jour elle va chanter Assise. Et donc moi je vais beaucoup jouer sur ce truc-là, et donc je me rappelle de Victor Hugo et j'écris ça, je dis l'évocation de la destinée tragique des personnages du répertoire qu'elle avait interprété entra-t-elle en brutale résonance avec sa propre vie? La vision de ce petit garçon subjugué lui fit-elle ressentir le désir affectif qui était le sien depuis la mort de Maurice? Un sentiment de fatalité et d'injustice vint-il l'accabler devant cet enfant condamné à une chaise roulante? Allez savoir, tout ce qu'on sait, c'est que le soir, elle ne parvint pas au cours des répétitions à se tenir debout assez longtemps, elle chanta assise, elle ne se releva jamais plus. Alors donc, ceux qui vont voir le clin d'œil à Victor Hugo vont être amusés, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on peut lire le texte sans lire Victor Hugo et peut-être y trouver un peu de plaisir.
Merci beaucoup, merci Pierre Lemaître, d'avoir accepté de participer à cette masterclass France Culture, la BNF et avec le soutien du CNL. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'était la masterclass de Pierre Lemaître avec Emmanuel Laurentin. Coordination, Arnaud Laporte. Attaché de production, Chouchane Djergaillan.